Nous vous invitons à prendre votre Bible. Alors tout d'abord dans Genèse, chapitre 12 et les versets 1 à 3. Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. »
Je vous invite à prendre aux épîtres de Galates 3, versets 6 à 9. Galates 3, versets 6 à 9. Ainsi Abraham crut-il en Dieu, et ce lui fut compté comme justice. Comprenez-le donc, ceux qui le réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Si bien que ceux qui le réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant.
Que l'Éternel te bénisse en tout bien et qu'il te garde de tout mal. Qu'il illumine ton cœur par l'intelligence de vie et qu'il te favorise de la connaissance éternelle, qu'il lève vers toi sa face gracieuse pour t'accorder l'éternel bonheur. Je vois que certains ont fermé les yeux. C'est vrai que généralement on termine le culte de cette manière-là. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu différemment. Et on va commencer par la bénédiction, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi une bénédiction finale pour ce service. Alors le mot est lancé, le mot bénédiction. D'ailleurs la bénédiction que j'ai empruntée, je l'ai empruntée à la communauté de Qumran, vous voyez qu'elle a une ressemblance avec le livre des Nombres. Dieu avait demandé donc à Aaron, la prêtrise d'Aaron, de prononcer sur le peuple la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous avez ressenti quelque chose pendant que je parlais. Peut-être. Je me souviens d'une sœur, c'est la femme d'un pasteur, qui au moment de son baptême a ressenti quelque chose de très particulier. Et c'est physique. Hein. D'autres, non. Rien. Alors je ne sais pas si ce matin. Mais en tout cas, sachez que la bénédiction, vous allez peut-être m'entendre le dire plusieurs fois, parce que je vais aborder 6 domaines pratiques. Pratique dans l'église adventiste, on pratique la bénédiction, on utilise le mot bénir, bénédiction. Et souvent, je crois qu'il y a quand même une dimension magique. Derrière, peut-être notre croyance aussi ce matin. Alors les textes qui ont été lus par Isaïa et Jonathan, nous en sommes bénéficiaires. « Je te bénirai, dit l'Éternel, à Abraham, Abraham, qui va devenir Abraham. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors c'est repris dans le Nouveau Testament, dans le livre des Galates. « Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Chers amis, enfants, jeunes et adultes, ce matin, nous bénéficions de cette bénédiction. En Abraham. Réjouissez-vous, oui, il y a quelqu'un qui dit Amen. Je crois, réjouissez-vous. Ce que Dieu a fait à Abraham, par sa foi, parce qu'il avait placé sa confiance en Dieu, eh bien, c'est déjà le fruit. Il bénéficie déjà de cette bénédiction. Je ne sais pas si vous avez un petit morceau de papier dans votre Bible ou sur vous. Ça serait intéressant de noter, ou faites-le quand vous rentrerez, ou peut-être sur un carnet, que sais-je. Il y a des personnes qui ont des ce qu'on appelle carnet ou journal de prière, pourquoi pas de bénédiction. Il serait intéressant de noter finalement nos prières, je sais que certains le font, et puis après, de noter quand le Seigneur répond. Ça, c'est merveilleux. On pourrait faire la même chose avec les bénédictions aussi. Essayez d'imaginer la semaine qui vient de s'écouler, là. Êtes-vous conscient d'une bénédiction, au moins une, que que le Seigneur vous a prodiguées au cours de cette semaine. Au moins une. Si je devais donner la parole ce matin, je pense qu'il y en a plusieurs qui pourraient s'exprimer et dire voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au cours de cette semaine. Mais c'est intéressant de noter cela et de le relire quand on n'a pas trop le moral, quand on passe par un moment difficile de notre vie, de relire les bénédictions que le Seigneur nous a transmises. Alors vous savez que le mot bénédiction veut tout simplement dire bien dire, dire du bien. Ça vient d'un mot latin, benedicere, qui veut dire du bien de quelqu'un ou à quelqu'un. Alors vous allez voir, on va parler comment Dieu bénit l'homme, comment l'homme bénit Dieu, comment l'homme bénit l'homme, et comment on peut même se bénir soi-même. Ça c'est peut-être étonnant, bon, j'ai trouvé un passage de l'Écriture à ce sujet, c'est intéressant. Alors, il faut savoir que la bénédiction, on va un peu démystifier ce mot, on l'a dit tout simplement, c'est dire du bien, d'accord. Dieu nous en a donné, j'allais dire l'exemple, c'est une grâce, la bénédiction est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, un bien. D'ailleurs, dans l'original hébraïque, le mot beraka, peut-être qu'a donné baraka, vous voyez, ça veut dire bénédiction. Ou eulogia, aussi en grec, c'est pareil, ça a le même sens. C'est-à-dire que c'est un bien, un avantage que l'on estime dû à la faveur du ciel. Certains diraient même un rajout, un supplément, souvent immédiat. Alors il faut noter quelque chose, je le tiens d'un rabbin, je regardais sur Internet, c'est intéressant parce que Internet on trouve tout. Regardez au mot bénédiction, vous allez trouver toute une foison de pages sur ce terme. Et j'ai noté ce que disait un rabbin. Il disait que dans la bénédiction, il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Et il faut que celui qui reçoit soit réceptif. C'est un réceptacle pour recevoir la bénédiction. Parce qu'on peut donner et ne pas recevoir aussi. Ou être dans les dispositions pour recevoir. Dans un contexte laïque, le mot bénédiction s'applique à des vœux de bonheur et de prospérité. Ne dit-on pas quelle bénédiction, quelle chance, quelle bonne chose. Je l'ai entendu ce matin, peut-être par rapport à ici, notre privilège d'avoir ce temps superbe encore dans cette arrière-saison, comme si l'été se prolongeait. C'est une bénédiction. En tout cas pour nous dans nos régions, bien sûr. Alors, comment ça se passe quand Dieu bénit l'homme? Dans la parole de Dieu, quel est le premier texte qui parle de bénédiction? Eh bien, nous trouvons dans la Genèse, au chapitre 1 et au verset 22. Vous savez qu'à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, nous sommes dans le domaine de la création. Nous sommes au cinquième jour et le texte nous dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et à un moment donné, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. La première bénédiction, ce n'est pas l'homme. Il sera en second. Mais ce sont, au cinquième jour, les poissons et les oiseaux. Et cette bénédiction, rien de magique, hein ? Simplement le pouvoir de procréer. Dieu crée, l'homme procrée. Mais les animaux aussi. Et là, c'est un bienfait, bien sûr. La seconde mention, on la trouve la page suivante. Au chapitre 1 toujours, mais au verset 28. Dieu vient de créer, au sixième jour, l'homme et la femme. Et le texte dit, Dieu les bénit. Il bénit l'homme et la femme. Alors ça, c'est le premier mariage. Là, on assiste au premier mariage sur la terre d'Adam et de Ève. Et il leur dit, il les bénit. Il leur dit, procréez. Et voilà. Et ça, c'est la bénédiction. C'est celui, elle consiste ici en être, en multipliant, remplissant la terre, etc. Voilà donc en quoi consiste la bénédiction, là, ici, dans la Genèse. Et c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Si nous allons un peu plus loin dans la Genèse, toujours au chapitre 22, on a fait allusion tout à l'heure à Abraham. Au chapitre 22 et au verset 17, suite à la demande de Dieu de présenter en sacrifice son fils, donc demande de Dieu à Abraham de présenter son fils Isaac, vous savez que Dieu était intervenu à un moment donné, et il lui dit au verset 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Dieu comble l'homme fidèle ou la femme fidèle de biens matériels et spirituels. Par exemple, une longue vie, nous rapporte le texte biblique, une progéniture, la paix, la postérité. Proverbe chapitre 28, verset 20. Voilà, il y a des textes que je vais lire directement, et puis parce que j'ai pas mal de textes, justement pour montrer que dans l'Écriture, finalement, la bénédiction est présente partout, et nous en sommes les bénéficiaires encore aujourd'hui. Proverbe 28, verset 20. Il est dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Je crois qu'on pourrait dire même que la fidélité en soi te rapporte la bénédiction. C'est une bénédiction en soi. Dieu bénit aussi l'œuvre des mains et les entreprises humaines. Si vous lisez ça, dans le Deutéronome chapitre 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Dieu bénit l'œuvre des mains de l'homme. L'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. J'aimerais prendre un autre exemple dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 19 et au verset 24. Une prophétie sur l'Égypte est prononcée. C'est vrai que l'Égypte était juste à côté du territoire d'Israël, mais il y a une prophétie aussi qui touche la Syrie. La Syrie est au-dessus d'Israël. Israël est entre l'Égypte et la Syrie. Et pour aller en Assyrie, il faut passer par Israël quand on vient d'Égypte. Et il se trouve, le texte dit, « En ce temps-là, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. » L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » En fait, c'était la mission même d'Israël, d'être en bénédiction pour tous les peuples aux alentours. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle à transmettre. C'est-à-dire que tout ce que vivait, tout ce que le peuple d'Israël avait reçu comme enseignement, comme directive, comme orientation, eh bien, simplement le fait de les vivre entre eux, ça ne laissait pas indifférent tous ceux qui étaient autour. Et comme ça, ils devenaient, au fur et à mesure de leur vécu, quand ils voulaient bien être, j'allais dire, à l'écoute de Dieu, soumis à Dieu, eh bien, ils étaient naturellement, j'allais dire, en bénédiction aux autres. Dieu qui donne la bénédiction comme une grâce. Curieusement, dans le Deutéronome au chapitre 30, il la donne comme un choix de vie. Intéressant ce texte. Deutéronome aussi. Deutéronome 30, versets 19 et 20. Dieu est un Dieu de liberté. Il te laisse libre de le choisir. Je veux dire, même au matin de cette journée, même si tu es engagé dans le Seigneur depuis 10, 20, 30, 40 ans, voire plus. Eh bien, tu as la liberté chaque matin de dire oui au Seigneur ou pas. Et Dieu a toujours proposé, généralement, deux voies. Et il le dit ici. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort. » Ça veut dire, bon, le chemin qui conduit vers la vie, le chemin qui conduit vers la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Choisir la vie, mes amis, c'est choisir la bénédiction de Dieu. Le chemin de la bénédiction. Tu choisis la vie, tu seras béni. Ah, peut-être pas toujours comme on s'y attend. On pense que tout ira bien, on sera riche. Non, c'est pas toujours comme ça. On a des exemples bibliques aussi. Mais quels que soient les chemins par lesquels on passe, la destination est une destination de bénédiction. Un élément curieux aussi dans l'Écriture, et on va le prendre dans le livre des Actes, au chapitre 3, versets 25 et 26. Vous allez voir dans ce texte, la conversion, quand on se tourne vers Dieu et qu'on accueille Dieu dans notre vie, eh bien, la conversion est une bénédiction. Regardez, c'est à vous, premièrement, on peut lire même un petit peu avant, verset 24. « Toutes les prophètes ont successivement parlé depuis Samuel et ont annoncé ces jours-là, « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Et qui c'est le serviteur là? Jésus. D'accord? Pour vous bénir. Jésus est venu pour bénir, essentiellement. Bon, après, il y a tout le détail qu'on peut mettre autour. Et le texte continue en disant, en précisant, en détournant chacun de vous de ses iniquités. On était parti dans une démarche de malédiction, dire ça. Mais Christ est venu, en donnant sa vie, il a ouvert un chemin qui est celui de la bénédiction. Ça, c'est merveilleux. On peut dire amen. Ellen White dit dans Message à la jeunesse, « La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Tu lâches prise. Voilà, tu accueilles Seigneur dans ta vie. » Une autre chose aussi qui peut surprendre, c'est que Dieu peut transformer une malédiction en bénédiction. Exemple dans Deutéronome au chapitre 23, verset 5. Vous savez, c'est l'histoire de Balaam. Balaam qui est un prophète. Mais alors on se dit, bon, c'est un prophète, on demande s'il est du côté de Dieu, avec des pratiques un peu païennes derrière ça. Bon, Balaam, pas clair, mais pourtant à l'écoute. Fût-il à l'écoute de Dieu, à un moment donné. Et voilà que autour d'Israël, vous savez, il y a toujours des peuples qui n'étaient pas forcément des amis du peuple d'Israël, bien sûr. Alors il y en a un, donc c'est le peuple des Moabites. Et là, le roi Moabite veut faire venir Balaam pour que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Qui oserait? Et alors Balaam, bon, il dit, oui, mais moi je vais quand même aller consulter Dieu. Et puis bon, ben, on peut imaginer qu'en ayant consulté Dieu, qu'il a une autre, Dieu lui donne une autre orientation. Quoi. Et il dira lui-même au roi Balak, je vais consulter Dieu pour lui demander. Ok. Et bien sûr, il reçoit de Dieu, non, tu béniras le peuple d'Israël. Mais il n'était pas toujours dans ces dispositions-là. Le texte dit au chapitre 23, Deutéronome 23:5, « L'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam, parce qu'il n'était pas toujours dans les dispositions pour obéir. » L'histoire de l'ânesse aussi démontre. « Mais l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. » Dieu aime son peuple. Et même s'il lui envoie des épreuves de temps en temps pour le réorienter, j'allais dire, le remettre en connexion, pour lui apprendre finalement à s'attacher à son Dieu. Moi, je crois qu'on est toujours comme ça aujourd'hui, on a besoin d'être repris en considération par Dieu, qui nous envoie aussi des interpellations de temps en temps pour réajuster et pour confirmer notre attachement à son égard. J'aimerais qu'on prenne un texte dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il commence comme ça, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Voilà, la bénédiction, c'est un bien spirituel qui a été apporté par l'Évangile. L'Évangile est une bénédiction, ici. Et voyez-vous, si on revient un petit peu juste quelques pages avant, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 14, on voit que finalement, la bénédiction après le Christ, quelle bénédiction on va attendre? La bénédiction atteint son sommet dans le Christ qui donne le Saint-Esprit comme, en quelque sorte, héritage ultime. Nous le voyons là, juste avant, au verset 14, Galates 3, 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Voilà, voilà ce qui se passe quand Dieu bénit l'homme. Maintenant, quand l'homme bénit Dieu, j'allais dire, on renvoie l'ascenseur. On va revenir sur ça, on va employer une image tout à l'heure qui nous aide à voir que finalement, tout vient de Dieu, retourne à Dieu. Mais pour le moment, comment ça se passe? Dans Marc, au chapitre 6, verset 7, quand l'homme bénit Dieu, hein, nous lisons ceci. « Après avoir pris les 7 pains et rendu grâce, il les rompit et se mit à donner à ses disciples. » C'est Jésus. Vous savez, la fameuse multiplication des pains, là, plus de 4000 personnes. C'est vrai que la bénédiction, c'est un miracle. C'est un don. On est surpris. Puis si on doit en être conscient, ne pas passer à côté de la bénédiction que Dieu nous envoie, parce qu'en être conscient, c'est encore en ressentir un plus grand bien. Alors là, au moment de distribuer le pain, il y avait encore quelques petits poissons, dit le texte, après avoir prononcé la bénédiction sur eux. Et attention, bénédiction sur les poissons. Ah, ça m'a gêné ça. Bon, on va revenir sur des pratiques qu'on a. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire de bénir les poissons? C'est comme bénir le pain, on va en dire tout à l'heure. Tu es là à table, qui veut bénir le pain? Ou au moment de la scène aussi. On dit, tu acceptes de bénir le pain, bénir le vin. Attendez, qu'est-ce qu'on va conférer là au pain et au jus de fruits? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, il va se passer quelque chose que quand tu vas le manger, ça va créer quelque chose de mystérieux dans ta vie? Non, pas du tout. D'ailleurs, le terme ici, donc, de rendre grâce à Dieu ou de bénir sont similaires. Ça a le même sens, en tout cas. On aurait pu dire littéralement, après les avoir bénis ou rendus grâce, l'essentiel c'est quoi? C'est de rendre grâce à Dieu. De ne pas être, polarisé par ce qu'on mange, ce qu'on va manger. S'il y a quelque chose qui allait se transformer, là, peut-être dans les aliments. Mais en fait, c'est l'occasion de pouvoir rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que fait. Jésus est en train de rendre grâce à son Père. Il donne l'exemple. Au peuple, aux familles du peuple, aux pères, aux mères, pour leurs enfants, parce que l'enfant, il découvre la foi comme ça en regardant comment les autres s'y prennent dans leur foi. Et c'est comme ça qu'ils vont être éveillés à la foi, en regardant faire, en écoutant. L'homme bénit Dieu qui s'est révélé à lui. Et voyez, l'homme qui bénit Dieu reporte la bénédiction à sa source. Alors j'aimerais qu'on puisse envoyer, merci Mathieu, de nous envoyer maintenant une petite vidéo très courte, moins d'une minute. Vous allez écouter.
L'eau des fleuves et des océans, qui à la base est sous forme liquide, va passer sous l'état gazeux grâce au soleil et au vent. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Ensuite, dans le nuage, l'eau va redevenir liquide, donc c'est la condensation, et va retomber sur terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle. C'est ce qu'on appelle la précipitation. Elle va ensuite ruisseler le long des terres et il y a deux choix possibles. Soit elle va s'infiltrer dans des nappes phréatiques, soit elle va continuer son parcours jusqu'aux rivières, aux fleuves, puis aux océans, où elle va à nouveau s'évaporer. C'est ce qu'on appelle le cycle
voilà.
de l'eau.
C'est simple. Et je vais comparer le cycle de l'eau au cycle de la bénédiction. Bon, il y a une différence. C'est vrai que le cycle de l'eau, ça part comme ça de l'évaporation, puis on vous a expliqué, et ça continue. Avec tout un parcours. Là, la différence, c'est qu'en fait, la bénédiction vient de Dieu. Mais elle retourne à Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est un principe de vie qu'on trouve dans l'Écriture. Le bien sort de Dieu, il retourne à Dieu. Bon, essayez de trouver d'où vient le mal et où il va retourner. L'arroseur arrosé. Curieux ça, hein? Mais c'est ça, il y a des lois de vie que nous découvrons dans l'Écriture. Elles sont là, elles sont présentes, j'allais dire, jusque dans l'éternité. Et c'est intéressant de lire, comme ça on va les lire parce que le temps passe. Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11 dit ceci. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La boucle est bouclée. Seulement, entre le moment de départ et le retour à Dieu, eh bien, je vais dire, il y a du monde qui a été arrosé. Finalement, quand tu communiques une bénédiction à quelqu'un, que tu transmets quelque chose de bien, et qu'il se met à louer Dieu, ben voilà, la boucle aussi retourne à Dieu. Regardez dans Luc chapitre 24, versets 50 à 53, c'est les derniers moments où Jésus est avec ses disciples. Le texte dit, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. » Oui, j'ai levé les mains tout à l'heure, mais il n'y a rien de magique, hein. Quand je lève les mains, c'est que finalement, je remets à Dieu, je vous remets à Dieu, ou je demande à Dieu de vous apporter tout le bien qu'il a en réserve pour chacun. Le texte dit, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara. Et même en partant, il bénit, là. Alors, il dit, pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ah, ça fait du bien, la bénédiction, hein. Ils auraient pu être tristes, mais ils sont plus. Ils l'étaient à un moment donné. Et le texte dit, ils étaient continuellement dans le temps, et vous voyez ce qu'ils font? Louant et bénissant Dieu. La louange. La louange est une bénédiction. Être chantre, c'est une bénédiction. Chanter, louer le Seigneur. Bénir le Seigneur. Ça peut gêner peut-être, en disant, mais Seigneur, est-ce qu'il a besoin d'être béni? Non, il a besoin du retour. Il a besoin qu'on pense à lui, qu'on lui manifeste en tout cas. Comme quoi, nous sommes en lien avec lui, en contact avec lui. C'est sûr qu'il voit toutes choses, mais il a besoin de savoir. C'est sûr que dans nos prières, des fois, nos besoins, il les connaît, pourquoi lui dire? Mais il veut que nous l'exprimions, si ce n'est intérieurement, au moins aussi verbalement. Lorsqu'une terre est abreuvée, dit Hébreux chapitre 6, verset 7, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. On a l'exemple de Job, l'histoire de Job qui a été éprouvée. Un homme riche, qui avait des biens, famille, et voilà qu'à un moment donné, cataclysme. Les épreuves tombent, perd ses enfants. C'est bien, ses enfants. Et même sa femme se tourne contre lui. En disant, mais hey, qu'est-ce qui fait Dieu là? Hé, hey, toi le croyant là, qu'est-ce qui fait Dieu pour toi? Toi qui lui es fidèle. Et Job dit, au chapitre 1, verset 20-22, alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Le texte termine, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il bénit Dieu dans son épreuve, même dans l'épreuve. Pas facile ça, hein ? Ça vous est arrivé ? On pense plutôt, on est focalisé là par ce qui nous arrive. Pas évident, hein, parce que quand le cœur est touché par quelque chose qui nous étreint, pas évident de l'ouvrir et de dire Seigneur, avec le sourire. Job, là, la foi de Job. Là, vous la découvrez, la foi de Job. Et pourtant, il attend la réponse de Dieu à ce qui lui arrive. Il faudra attendre 38 chapitres plus tard où là, Dieu se manifeste. Et pas comme il l'attend d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est l'histoire de Job. Il bénira encore Dieu à la fin de sa vie. On pourrait citer comme ça bien des passages. L'homme bénit l'homme, on pourrait aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme bénit l'homme? Par exemple, Genèse 14, verset 17 à 20. Histoire de Melchisédek, vous savez, Abraham, à un moment donné, est confronté à d'autres peuplades, il part en guerre, puis après il revient, et le texte dit au verset 19, Genèse 14, Melchisédek, voilà qu'à un moment donné, un des rois, aux alentours, le roi de Salem, se met à bénir Abraham, et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, là, intervient. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à donner sa dîme? On s'en sert souvent comme référence sur notre pratique aujourd'hui même, si la dîme, qui est une démarche de fidélité à Dieu, parce que c'est quelque chose qui revient, les revenus, en fonction de nos revenus, bien sûr. Mais je crois qu'entre la dîme, même si c'est un geste de libéralité, ou de fidélité, je veux dire, et l'offrande de libéralité, là, je crois qu'il voit quelque chose où l'homme se sent poussé à exprimer sa reconnaissance à Dieu, à bénir Dieu de cette manière-là. Et quand tu amènes ta dîme au Seigneur, tu bénis Dieu. Ah, c'est sûr, tu vas bénir aussi l'Église. Oui, parce que bon, c'est sur le plan pratique, l'Église étant au service de Dieu, quoi. Nous sommes d'accord. Bénir celui qui vous a fait du bien, alors vous direz, c'est facile. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais bénir celui qui n'est pas forcément votre meilleur ami, ça peut surprendre. Et surtout quand on lit Romains chapitre 12, verset 14, et on voit que ici l'auteur de l'épître aux Romains s'est inspiré bien sûr de la vie du Christ et de l'enseignement du Christ, quand il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Ça vous est arrivé ça? De bénir des gens qui vous font du mal? Oui, là on aborde quelque chose, et pourtant il est l'heure de terminer. Et pourtant je n'ai pas tout dit. Moi je pense à Roger Hawk, qui était un journaliste de TF1. J'ai lu son histoire, j'ai un petit peu suivi ce qui se passait, comme vous peut-être il y a quelques années. Il était emprisonné au Liban, et un jour il a eu une Bible entre les mains. Et cet homme il s'est mis à prier. Lui, l'athée, senti poussé à prier, à élever son âme à Dieu. Et vous savez pour qui il a prié? Ben, il a prié pour les gens qu'il tenait prisonniers, ses détracteurs, hein, ses gardiens de prison. Voilà. Comme un homme comme ça, qui était athée, qui rentre là-bas, qui va là-bas, qui part en mission. Il se retrouve en voyant. Et il revient croyant ici, il est revenu en France croyant, délivré quelques années. Vous pouvez lire ça dans son livre « Otage en Liban ». Voilà comment aussi la parole de Dieu transforme le cœur, les pensées, et comment on peut en venir même à louer le Seigneur. Pierre dira, ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour bénissez au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés avec d'hérité la bénédiction. Alors, ce que je dis, c'est peut-être facile de le dire, mais de le vivre, c'est peut-être autre chose, c'est vrai. Mais je suis comme vous. Hein. Parce que bon, on est tous des hommes, des êtres humains, injure quelqu'un, ça nous a fait du mal. Ou nous aussi, on a pu avoir fait du mal à quelqu'un. Et vivre après la relation à l'autre, pas facile. Hein. Et c'est tout un long chemin, ça, d'apprentissage, de relation avec Dieu. Ça passe souvent par la tête d'abord et le cœur après, parce que les sentiments, pour qu'ils se transforment, ça demande beaucoup plus de temps. Alors on est d'accord, oui, il faut prier pour la personne. Bon, pour le principe, on va prier, mais le cœur n'y est pas. Et il viendra, le cœur, mais il faudra un petit peu de moment. On pourrait parler des bénédictions aussi que des fois on récupère. Jacob qui a, allez, pour faire rapide, son frère lui vend le droit d'aînesse. Vous savez que le droit d'aînesse en Israël, c'est un droit à la bénédiction du père, du patriarche. Et Isaac a l'intention de donner à Ésaü la bénédiction qui lui revient. Ah, seulement, il l'a vendu pour un plat de lentilles. Ah, qu'est-ce qu'on fait pendant ça là ? Mais pourtant, alors Jacob a usurpé, en tout cas malin, voilà, et il a récupéré cette bénédiction qui ne revenait pas, qui revenait à son frère, que c'est l'histoire. Mais de toute façon, tout ça, c'était écrit. Dès le ventre de sa mère, les deux étaient là, et il y en a un qui le talonnait déjà. C'est une histoire. Et il a vécu pendant 20 ans avec une bénédiction, j'allais dire, usurpée, oui. Est-ce qu'on peut vivre comme ça, avec un sentiment de culpabilité pendant 20 ans? Je crois qu'il est tourmenté, cet homme. Il va aller voyager ailleurs, trouver une femme et enfant ailleurs. Il va revenir dans le pays, il apprend que son frère Ésaü lui en veut. Il vient avec 400 hommes à sa rencontre. C'était peut-être pas pour lui souhaiter la bénédiction. Enfin, c'est ce qu'il pense. Regardez comment les choses se passent. C'est une histoire merveilleuse, cette histoire de Jacob, qui va devenir Israël. Au chapitre 32-33, déjà, on apprend qu'à un moment donné, Jacob, qui revient dans le pays avec femme et enfant, eh bien, à un moment donné, il est seul. Il apprend que son frère vient à sa rencontre, il disperse, enfin, il divise ces deux camps. Il est très intelligent, Jacob. Pas n'importe qui, c'est quand même il a porté le nom d'Israël après, vous voyez, donc, une grande lignée du peuple d'Israël. Oui, ben attendez, est-ce qu'on peut porter le nom de quelqu'un et être un usurpateur ? Seigneur, moi, ça me choque. Ah oui, mais les choses vont changer. Parce qu'il va vivre sa conversion, Jacob. Et le fait qu'il soit devenu Israël, c'est qu'il est, il était dans les dispositions pour recevoir, j'allais dire, pas sa bénédiction, recevoir la mission que le Seigneur voulait au travers de lui vers les autres. Mais il faut passer par la conversion, comme ça. Et c'est ce qu'il va faire. Et Jacob devra lutter pour obtenir une nouvelle bénédiction que vous trouvez dans Genèse 32, verset 26. « Je ne te laisserai pas aller, dit-il à celui avec qui il est en train de lutter. » Ça a duré, c'était le match de la nuit, ça. Il va lutter toute une nuit avec quelqu'un. Alors, on peut demander, là, vu les situations du pays, c'est l'ange de l'Éternel. Quelqu'un a dit, c'était même le Fils de Dieu. Mais attention, c'est un combat sérieux. Et au matin, au petit matin, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni, parce qu'il a besoin vraiment de se sentir nickel avec Dieu, quoi, j'allais dire, voyez. Clean, clair. Et son cœur a changé, on pourrait relire des détails où la conversion, il l'a vécu. Les dispositions qu'il a maintenant vis-à-vis de son frère, il passe par l'humilité. C'est plus lui, attention, Jacob. Ouais, ça aussi, vous voyez comment le Seigneur peut transformer cela. Dans nos pratiques de la bénédiction, j'en ai fait allusion tout à l'heure, le repas. Seigneur, bénis les aliments que nous allons prendre. Attendez, qu'est-ce qui se passe là dans vos aliments? Vous pensez que si vous mangez du porc, ça va se transformer en bœuf? Ou alors, bon, non, parce que il y a quelque chose de magique qui va se passer. Peut-être que c'est arrivé, hein, je ne vais pas, ici être absolu. Mais j'ai envie d'imaginer qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir une petite prière. J'aime pas beaucoup ces petites prières. On prie, tout simplement. Alors, c'est vrai, il y a des prières plus ou moins longues, comme des prédications aussi, peut-être. Je fasse attention. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait quand on prie pour le repas? On remercie Dieu, simplement, pour les aliments que nous avons. On rend grâce. Mais vous voyez, en partageant ce que nous recevons, ça a une incidence quand même très importante. José Eisenberg et Armand Abécassis, qui étaient il n'y a pas longtemps à Collonges, d'ailleurs, Vous avez entendu parler à Bible ouverte là, dimanche matin sur à la télévision. C'est deux hommes qui expliquaient un petit peu l'interprétation des Écritures. Il dit à un moment donné, lorsque l'homme juif récite la formule de bénédiction avant de consommer son pain, son fruit ou son vin, il ne les bénit pas à proprement parler. En réalité, il reconnaît par la formule rituelle qu'il n'est pas le maître absolu du monde, celui qui prie, ni la nourriture tirée de la nature, mais qu'il a cependant le droit de profiter de la richesse de celle-ci, puisqu'il l'utilise dans le sens que le Créateur indiquait. En prononçant la bénédiction à propos du pain, il partage celui-ci entre convives. J'aime bien cette dimension aussi de la bénédiction. Ça invite au partage, à la convivialité. Le sens de cette bénédiction consiste dans le droit d'utiliser les richesses du monde en les partageant avec autrui. Le partage, bénédiction. Ah, tu te la gardes pour toi. Non, tu la partages. Et elle retourne à Dieu, de cette manière-là, quoi. Le repas de la scène, tout à l'heure on en a fait allusion, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, ou l'ayant béni, il a simplement remercié son Père, finalement, de l'avoir envoyé sur terre. J'étais d'accord. Mais un geste de reconnaissance aussi, en disant ce pain, Seigneur, voyez, on voit l'unité aussi entre le Père, le Fils, et bien sûr dans l'action du Saint-Esprit. Bénédiction lors du mariage. Genèse 24, verset 60. Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède le pays de tes ennemis. Façon de dire aussi les choses. Voilà, un mariage ici, c'est celui de Rebecca. Enfin, futur, parce qu'il n'a pas eu lieu, mais Rebecca qui part de sa famille, Isaac est allé, enfin, il y a un missionnaire, quelqu'un qui a été missionné pour envoyer chercher une femme à Isaac. Et c'est Rebecca. Rebecca reçoit la bénédiction de sa parenté, parce que c'est comme ça se faisait. Voilà, je veux dire que le père de famille jouait le rôle à la fois de maire du village, de pasteur et de père. Voilà, et vous avez tout là, vous avez tout le mariage là. Aujourd'hui, on divise. Encore, fût-il que des fois, il y a le pasteur et le... Enfin, je veux dire, le maire du village et le pasteur, mais il n'y a peut-être pas forcément toujours le père qui donne la bénédiction. Mais là, c'était complet, hein. Familial aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oh, notre sœur puisse devenir des milliers... Oxy, bon, d'accord, voilà, on espère que tu aurais des enfants. Voilà, c'est ça, en quelque sorte. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Parce qu'on y tient beaucoup à ça. Je crois que dans ce mois-ci, là, il va y avoir 3 mariages de familles de l'Église. Hein. D'accord, mais alors, oui, bien sûr, alors on pourrait demander à ceux qui ont demandé le mariage la bénédiction nuptiale. On n'imagine pas un mariage sans bénédiction, bien sûr. Ça serait maléfique si on n'avait pas la bénédiction. Il manque quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire de demander ? Généralement, on demande la bénédiction de Dieu sur les époux, déjà. Ce n'est pas le prêtre, pasteur ou quiconque aurait un pouvoir particulier pour donner la bénédiction dans ce domaine. C'est tout simplement demander à Dieu qu'il donne tous ses bienfaits qu'il en réserve pour ces deux personnes. Cet homme, pour cette femme. Voilà. Qu'il agisse favorablement envers les époux, dès maintenant et pour toujours. On va dire. Rien de magique. Mais il y a aussi quand même une dimension d'approbation divine et de réceptivité de l'homme. Maintenant, je voudrais laisser simplement cette question à votre réflexion, que je me suis toujours posée quand je faisais de la préparation au mariage, et ça continue. Puis-je demander à Dieu de me bénir quand ma vie n'est pas en accord avec la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Je vous laisse ça, réflexion. Peut-être qu'un jour, librement, pourquoi un après-midi, je ne sais pas. Vous pouvez échanger là-dessus, si vous voulez. Je me suis longuement interrogé là-dessus. Longuement interrogé. La bénédiction des nouveau-nés, vous savez qu'on présente des enfants, ça va se faire la semaine prochaine dans une église de la région parisienne. Pour une famille, voilà, on présente 2 enfants. On dit, mais attendez, ce n'est pas un baptême. Bien sûr, on présente des enfants, c'est-à-dire qu'on souhaite pour eux. On va les bénir comme Jésus a accueilli dans ses bras. Marc 10, 16. Il a béni des enfants. Il leur a souhaité tout le bien du monde qu'il pouvait faire. Simplement reconnaître que d'abord, la vie, c'est un don de Dieu. Et les parents sont invités à le faire ainsi. L'occasion de remercier Dieu pour le miracle de la naissance. L'occasion aussi de sceller alliance par laquelle les parents s'engagent à apprendre à l'enfant à aimer Jésus. Aussi, c'est pas... Là aussi, rien de magique. Mais c'est aussi un appel, hein, la présentation d'enfants, je dis de manière communautaire, un appel pour la communauté à dispenser aide et soutien aux parents pour les assister dans leur tâche, d'accompagner l'enfant dans son éveil. Et c'est, je vois tout le travail des animatrices ou animateurs de l'école sabbat vis-à-vis des enfants, des jeunes. Voilà, c'est tout ça. On s'engage tous là. Présenter un enfant, c'est prendre conscience dans une communauté de sa réalité présente et de son cheminement alors qu'il va grandir dans l'Église. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui ? Pour l'aider. La bénédiction à la fin de la culte, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une pratique qui se fait, pas trop dans nos territoires, mais qui se fait. J'ai été sollicité comme ça, c'est-à-dire la bénédiction d'une maison. Aussi, qu'est-ce que tu veux bénir une maison ? Les murs. Pourtant, il y a un texte qui dit dans 1 Chronique 16, 43, au moment où l'arche est ramenée à Jérusalem, entraînant des réjouissances, tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison et David s'en retourna pour bénir sa maison. Ah, qu'est-ce qu'il a fait en rentrant chez lui, Abraham ? J'aime bien cette traduction de la Bible en français courant. David rentra aussi chez lui, saluer les siens. Salutation. Shalom. Shalom, shalem, shalom. Sois béni. Sois en paix avec Dieu, avec les autres et en toi-même. Bénir une maison, c'est finalement permettre que cette famille qui va maintenant habiter dans cette maison, généralement ça se fait quand tu rentres dans une nouvelle maison, que tu sois aussi l'occasion d'un témoignage, d'un rayonnement, toi, une famille croyante, auprès de ton entourage, que vous fassiez du bien, que cette maison puisse accueillir la paix, des relations qui soient à la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça, la bénédiction. C'est les murs, ils sont toujours les murs, mais l'important, c'est ceux qui vont y habiter, ceux qui vont franchir la porte et qui en sortiront. Voilà, c'est ça la chose. Alors, ce que je voudrais te dire pour terminer, que Dieu te bénisse, toi, enfant, jeune et adulte, parent, pour que cette nouvelle année scolaire, cette reprise de... Ça fait déjà un mois, hein, c'est vrai. Cette reprise de travail, pour certains, peut-être quête de travail pour d'autres, hein. Cette reprise des activités d'église, je crois que ça va commencer samedi prochain, pour la jeunesse, dans le service auquel le Seigneur t'appelle, toi qui viens d'être peut-être nommé ou renommé, voilà, c'est une bénédiction de servir aussi, de servir les autres dans l'église. Alors mon souhait pour toi, c'est que tu sois, pour chacun, aussi bien enfant, jeune et adulte, que tu sois en bénédiction auprès de ceux avec lesquels tu vis, que tu rencontres. J'ajouterai, pour faire lien avec le message de samedi dernier, Sentinelle. Vous vous rappelez Sentinelle, hein, la semaine dernière. Sois une source de bénédiction. Amen.